Lundi, deux magistrats du parquet ont tenté de perquisitionner les locaux du site d'information Mediapart dans le cadre d'une enquête sur la diffusion d'enregistrements de l'ex-homme de confiance du président, Alexandre Benalla. Qu'est-ce qui justifiait une telle procédure, une première dans l'histoire de ce média? En quoi la protection des sources est-elle concernée? Est-ce une entrave à la liberté d'informer? Comme on sait que dans le même temps se tenait cette semaine au tribunal de Paris le procès pour diffamation intenté par l'ex-député écologiste Denis Baupin à 8 de ses accusatrices, mais aussi à deux organes de presse, France Inter et Mediapart, nous avons eu envie de nous pencher sur les relations tumultueuses entre la presse et la justice ce matin en compagnie de nos deux invités. Sylvain Tronchet, tout d'abord, bonjour.
Bonjour.
Journaliste à la cellule investigation de Radio France, et Georges Fenech, bonjour.
Bonjour.
Ancien magistrat et député honoraire, vous avez été membre de la commission d'enquête d'Outreau en 2005 et vous êtes l'auteur en 2007 d'un livre intitulé « Presse et justice, deux points, liaison dangereuse » publié aux éditions L'Archipel. Alors on va commencer par cette perquisition qui est le point de départ de notre fabrique médiatique du jour. Les journalistes de Mediapart qui ont été soutenus par un certain nombre d'organes de presse dont Radio France, qui ont été soutenus par les sociétés de journalistes, ont insisté sur le caractère inédit et assez grave, disent-ils, de cette tentative de perquisition. Vive préoccupation, disent les sociétés de journalistes. Est-ce que vous êtes d'accord l'un et l'autre, Georges Fenech?
Vous savez, la liberté de la presse et son corollaire nécessaire, qui est le secret des sources. Sans secret des sources, il ne peut pas y avoir de liberté de la presse. C'est une liberté fondamentale. La presse n'est pas, pour moi, un contre-pouvoir. C'est le moyen de contrôler tous les autres pouvoirs. Exécutif, législatif et judiciaire. Donc à partir du moment où on fait des entorses, où on essaye de creuser par des moyens détournés et de découvrir les sources des journalistes, c'est une atteinte majeure à la liberté d'expression et à la liberté de la presse.
Quand vous dites moyen détourné, ça veut dire que cette perquisition n'était pas légale?
Cela veut dire qu'il y a un principe, aujourd'hui qui est admis, c'est dans la loi, c'est l'article 109 du Code de procédure pénale, qui nous dit que le journaliste n'est pas obligé, quand on lui pose la question, quand un juge lui pose la question, de donner ses sources. Et c'est un moyen d'immunité, je dirais, il n'est pas obligé de le faire. Mais pour autant, les juges, on l'a vu par le passé, c'est pas une première Mediapart. Hein.
Il y a eu d'autres. Non, c'est une première à Mediapart.
Mediapart.
C'est pas une première dans l'histoire des médias.
Tout à fait. Vous avez raison. Hein. On se souvient l'affaire Cofidis, Le Point. Il y a eu Le Canard enchaîné. Il y a eu L'Équipe. Libé, je crois aussi. Il y a eu d'autres. Voilà. Si vous voulez, les juges ont malheureusement tendance à contourner ce secret des sources en essayant d'aller le trouver eux-mêmes. Et donc par des perquisitions, et on reviendra si vous voulez sur celle-ci, je vous dirai ce que j'en pense.
Ah bah allez-y, tout de suite, sur cette perquisition-là précisément.
Bah, si vous voulez, cette perquisition, elle va donc encore une fois à l'encontre des grands principes qui sont réaffirmés depuis 1938, hein, depuis la grande charte sur la liberté de la presse, réaffirmée de manière permanente par notamment la Cour européenne des droits de l'homme, qui a condamné à plusieurs reprises, il y a l'arrêt Goodwin notamment, qui est très important, la France. Et cette perquisition, qui s'inscrit en plus dans un cadre d'une enquête préliminaire, c'est même pas un juge, là, on est encore au stade de l'enquête préliminaire.
C'est le parquet de Paris.
C'est le parquet de Paris qui, sur un motif qui quand même laisse perplexe, c'est-à-dire atteinte à la vie privée.
Or, et détention illicite d'appareils ou de dispositifs techniques de nature à permettre la réalisation d'interceptions, de télécommunications ou de conversations.
Alors, il y a deux choses. Alors, sur l'atteinte à la vie privée, d'abord, il faut une plainte préalable pour qu'il y ait des poursuites.
Qui n'a pas été déposé, en l'occurrence, par Alexandre Benalla ou par Pancrase.
Bon. Donc là, on peut déjà se poser des questions. Deuxième point, vous dites les appareils illégaux pour enregistrer, mais enfin, chacun comprend bien que c'est pas Mediapart qui a enregistré ces enregistrements. Donc, on sent qu'il y a vraiment, un excès de zèle, je ne sais pas pourquoi, du parquet qui se précipite dans une perquisition non contraignante dans des locaux de Mediapart.
C'est d'ailleurs ce qui a permis à Mediapart de refuser cette perquisition. Juste, je laisse la parole à Sylvain Tronchet sur cette perquisition. elle-même et sur la réaction de des sociétés des journalistes, donc je le rappelle, celle de Radio France et d'une trentaine de médias qui ont donc exprimé leurs vives préoccupations. Sylvain Tronchet.
Ben, déjà parce que factuellement, même si Georges Fenech le rappelait, il y a déjà eu des perquisitions dans des locaux d'entreprises de presse, malgré tout elles restent très rares.
Et la France a été condamnée souvent par la Cour européenne des droits de l'homme. Donc ça n'est pas rien.
Ces grands principes dans un organe que Georges Fenech énonçait, qui sont que le secret des sources est le corollaire de la liberté de la presse, ce sont des concepts juridiques également, puisqu'effectivement ils ont été énoncés par la Cour européenne de justice. Et cela, le procureur de la République de Paris, Rémy Hetz, ne pouvait évidemment l'ignorer, tout comme il ne pouvait pas ignorer qu'en déclenchant cette perquisition dans le contexte de l'affaire Benalla, au sein du média qui est en pointe dans le cadre des révélations actuellement dans la foulée de celle du Monde sur cette affaire qui touche directement au plus haut du pouvoir, il ne pouvait ignorer qu'il touchait à une matière complètement incandescente et que nécessairement ce serait une remise en cause du secret des sources, qui est quelque chose qui est encore mal défini et mal protégé en France. Hein. Oui. On est resté sur la loi Dati de 2010.
Alors, il faut que vous reveniez effectivement en arrière. C'est évidemment assez récent, cette protection des sources date de 2010.
La France était très en retard de ce point de vue-là. En 2010, la loi Dati consacre le secret des sources en disant, en gros, les journalistes ont le droit au secret des sources, mais elle introduit quand même une petite ambiguïté en disant, en gros, sauf s'il en va de l'intérêt supérieur de l'État. En gros. Et c'est une formulation qui est suffisamment floue pour qu'on ne sache pas exactement ce qui peut finalement être dérogatoire au secret absolu des sources des journalistes, même si en tant que principe il est reconnu. En 2016 d'ailleurs, l'Assemblée nationale avait tenté de renforcer le secret des sources des journalistes, mais ça avait été retoqué par le Conseil constitutionnel à l'époque. Et ce qui fait qu'on a toujours cette espèce d'ambiguïté en France à reconnaître la réalité du secret professionnel des journalistes, tout comme on l'accorde sans aucune ambiguïté aux médecins, par exemple. Et c'est quelque part dans cette faille qu'a tenté de s'engouffrer le parquet de Paris.
Georges Fenech.
Moi, c'est la proposition que je formulerais. Si on veut véritablement protéger la liberté de la presse, il faut que ce secret des sources devienne un véritable secret professionnel.
Ce qu'il n'est pas aujourd'hui.
Ce qu'il n'est pas. C'est-à-dire que l'article 109 est une protection du journaliste qui est une simple faculté. C'est-à-dire que si le journaliste trahit sa source, il n'encourt aucune sanction. Contrairement à un médecin qui, si jamais il trahit le secret médical, est sanctionné, à un avocat, à toutes les professions réglementées. Moi, je serais favorable, je l'ai émis déjà il y a une dizaine d'années, de créer un véritable secret professionnel pour le journaliste qui n'aurait en aucun cas le droit de divulguer sa source. Ça serait et ça existe dans d'autres législations. Hein. En Suède, notamment, il y a un véritable secret professionnel pour les journalistes. Et là, on en finirait avec ces moyens de contournement que sont les perquisitions, les écoutes téléphoniques. Il y a aussi des journalistes qui ont été placés sur écoute téléphonique.
Mais là, c'est donc au-delà même des questions de justice, où on touche à l'indépendance du parquet. C'est des questions qui touchent au pouvoir. C'est la tentation du pouvoir politique, là, de s'attaquer aux sources. Dans cette histoire en particulier, sans doute, en est-il question, puisqu'on a dit que le procureur de Paris avait été directement nommé par le président de la République et que c'était une tentative de l'Élysée et de Matignon d'intervenir. Sylvain Tronchet, que pensez-vous de ça?
C'est sûr que s'il avait voulu montrer une preuve d'indépendance, il serait peut-être pris différemment.
Mais c'est ça qui fait qu'on n'arrive pas à avancer sur la protection des sources.
Oui, et puis ce procureur-là, Rémy Hetz, récemment, lors de l'audience solennelle de rentrée du tribunal de grande instance de Paris, avait rappelé, et c'est pas un moment anodin, l'audience solennelle de rentrée, hein, c'est finalement en quelque sorte le discours de politique générale d'un politique pour un magistrat où on vient parler des choses importantes. Il avait rappelé que sur ce point-là, justement, ce point du secret de l'enquête, etc., il serait intraitable, et il a ouvert une procédure d'ailleurs dans le cadre de fuites dont il estime qu'elles ont eu lieu dans le cadre d'une enquête qui vise à un moment des publications qui ont été faites par le journal Le Monde récemment. Et deuxième chose, juste derrière, il est à l'origine de cette perquisition chez Mediapart. Il est en train, quelque part, il vient d'être nommé, hein, ce procureur, de marquer son territoire et d'indiquer ce que sera sa politique générale sur le sujet. de ce point de vue-là, c'est relativement inquiétant quand même, parce que il est à peu près évident que cette perquisition telle qu'elle était déclenchée ne pouvait avoir d'autre objectif que de tenter d'identifier quelles étaient les sources de Mediapart.
Est-ce que ça vous est déjà arrivé, vous, Sylvain Tronchet, au sein de la cellule d'investigation de Radio France, qu'un pouvoir...
D'être perquisitionné, non.
Non, pas d'être perquisitionné, mais qu'un pouvoir vous demande des informations sur vos sources, de façon détournée, par exemple, comme le disait Georges Fenech tout à l'heure.
Oui, enfin, il a pu arriver même que... subissent, et c'est documenté. Hein. Oui, bien sûr, ça a pu se produire.
Il y a un autre moyen d'ailleurs contourné, je dirais, de titiller un peu la presse, enfin, c'est un euphémisme. Et c'est, on le voit, des juges d'instruction qui mettent en examen des journalistes pour recel de violation du secret de l'instruction.
Qui est un délit dont se rendent coupables des centaines de journalistes, soyons
honnêtes. Ça aussi, il faudrait un jour ou l'autre légiférer. Et donner une forme d'immunité, parce que finalement, à la presse, les secrets sont faits pour être violés. Sans quoi il n'y aurait pas de presse, avec, je dis bien la nuance que vous avez rappelée, la protection de l'intérêt supérieur de la nation. On parle notamment aux affaires de terrorisme, par exemple. Là, il y a un intérêt supérieur encore. Voilà.
La fabrique médiatique s'intéresse ce matin aux relations tumultueuses ou dangereuses, dit l'un de nos deux invités, Georges Fenech, entre la presse et la justice. Georges Fenech est ancien magistrat et ancien député. Presse, justice, liaison dangereuse, c'était donc le titre de votre livre paru il y a une dizaine d'années.
Oui, qui est d'actualité toujours.
Et justement, c'est la question que j'allais vous poser. De quelle façon est-ce que vous pensez que les relations sont apaisées, sont de plus en plus tumultueuses, dangereuses en quel sens et de quel côté?
Oh, c'est un sujet que j'avais essayé de traiter donc de cette manière-là il y a une dizaine d'années. Les relations entre la justice et la presse, donc entre le troisième et le quatrième pouvoir, si je puis dire, je ne sais pas lequel est le plus important d'ailleurs, ont toujours été troubles. La presse se nourrit de la justice, je pense la presse d'investigation, évidemment. Mais vous savez, il faut le dire clairement, les juges aussi se nourrissent souvent de la presse. D'ailleurs, on voit bien que beaucoup de grandes affaires ne seraient jamais sorties sans la presse d'investigation. Et on pourrait en citer, depuis la Ve République, les grandes affaires qui sont sorties grâce aux investigations, et encore récemment. Donc, voilà, il y a des relations personnelles qui s'établissent, il faut le dire aussi. Moi, j'ai été juge d'instruction. Voilà, il y a des relations qui s'établissent entre certains juges et certains journalistes.
Mais à quel moment ça devient dangereux?
Et d'ailleurs, c'est là que ça peut devenir dangereux.
Ah.
Il peut y avoir une confusion des rôles. Le journaliste d'investigation ne doit pas devenir un procureur ou un juge. Il doit évidemment participer à la vérité, mais avec les moyens de la presse.
Qu'est-ce que ça veut dire que vous devenez des juges parfois, Sylvain Tronchet, face aux juges là ?
Il ne faut pas confondre les rôles.
Sylvain Tronchet, donc de la cellule d'investigation de Radio France.
Cette accusation, mais je l'ai entendue souvent, mais en général, elle vient plutôt des gens sur qui nous enquêtons. Que d'un principe général. Chacun est dans son rôle et chacun enquête avec ses moyens. Il nous arrive, nous, on fait aussi beaucoup d'enquêtes d'initiative. C'est-à-dire que parfois on enquête avant même que la justice ouvre des enquêtes préliminaires, etc.
C'est le travail des journalistes, là, pour reprendre Mediapart, c'est le travail des journalistes qui ouvrent parfois les enquêtes préliminaires.
En l'occurrence, on applique dans le cas de Mediapart, par exemple, sur le contrat qu'Alexandre Benalla aurait participé à établir
entre un milliardaire russe.
Un oligarque russe, voilà, exactement.
Hier, le parquet national financier a ouvert une enquête préliminaire
pour
corruption sur la base des enregistrements Mediapart.
A ouvert, enfin, on ne sait pas à quelle date elle a été ouverte, mais on peut effectivement imaginer que c'est sur la base des révélations de Mediapart que le PNF effectivement a ouvert cette enquête préliminaire. Ouais. Oui.
Georges Fenech.
Non, vous rappeliez que j'avais fait partie de la commission d'Outreau. C'est pour répondre à Sylvain Tronchet encore une fois. Ne pas confondre les rôles. Souvenez-vous quand même les dégâts vis-à-vis de cette procédure où 14 personnes avaient été accusées à tort. Et la presse.
D'abus sexuels sur mineurs.
La presse, moi je m'en souviens, on a fait une table ronde consacré à la presse, toute la presse était venue faire leur mea culpa, son mea culpa, sur le fait de ne pas avoir respecté la présomption d'innocence et d'avoir présenté ces gens-là comme coupables.
Oui, il y a eu l'affaire Dominique Baudis aussi, mais on a tiré des leçons de ce point de vue-là.
J'ai pas l'impression,
Non, pas comme ça.
Non, Sylvain Tronchet. C'est compliqué.
Quand est-ce que ça dérape?
En fait, ça dérape lorsque, à un moment, on oublie qu'un document, s'il, par exemple, émane d'une d'un dossier d'instruction peut toujours être contredit éventuellement par un autre document. Voilà, c'est ça ce dont il n'y a pas de preuve absolue. Tant qu'une instruction n'est pas close, toutes les fuites qui peuvent venir de cette instruction sont à manipuler avec énormément de précautions. Parce que ça n'est qu'une partie du dossier, ça n'est qu'une partie de la vérité. C'est-à-dire, il ne suffit pas de sortir un truc du chapeau. Et d'ailleurs, on sait que lors d'une instruction, il y a des parties à cette instruction, que ce soit du côté des personnes qui sont visées par l'enquête ou des parties civiles, etc., qui peuvent avoir intérêt à faire fuiter certains documents, certains PV d'audition, etc. Et là où le journaliste doit être prudent, c'est que, évidemment, il faut recueillir ces documents s'ils ont un intérêt général, mais toujours faire bien attention à l'intérêt qu'a la personne qui vous fait fuiter ce document, à ce qu'il sorte et à ce que ça ne soit pas des documents qui visent
la fuite, elle peut être d'origine politique aussi.
Oui, oui, aussi d'origine
politique. Oui, c'est quand même une relation triangulaire, cette histoire.
Ça peut venir du ministère de la Justice
bien
aussi.
Sûr.
Hein. On a des exemples, on pourra en citer, des exemples où des fuites sont orchestrées de cette façon-là. Mm.
Mais Georges Fenech, vous pointez deux excès possibles, deux écueils. Du côté médiatique, ce serait de négliger la présomption d'innocence et de devenir parfois des auxiliaires de justice. Et puis du côté judiciaire, c'est le lynchage médiatique. Bien précisément, je le citais tout à l'heure, on a assisté cette semaine au procès en diffamation intenté contre deux médias, Mediapart à nouveau et France Inter par l'ex-député écologiste Denis Baupin. Et l'avocat de Denis Baupin, Emmanuel Pierrat, a commencé la semaine en disant le sens de ce procès, c'est de dénoncer le lynchage médiatique honteux dont Denis Baupin a été la victime. Quel message envoie un homme politique à un média quand il l'attaque en justice et que c'est repris de cette façon-là par un avocat?
Ouais, c'est vraiment assez risqué et péril. Hein. D'ailleurs, la preuve, hier, le procès a bien montré qu'il y a eu une sorte d'inversion des rôles et Denis Baupin, le plaignant, devenait en quelque sorte l'accusé ou le prévenu. Non, je pense que il faut y aller avec beaucoup de précautions. Quand on se prétend victime d'un lynchage médiatique, il faut véritablement être totalement en dehors du coup. Hein. Là, manifestement, et si j'en crois les réquisitions prises hier par la procureure de la République, ça n'est pas le cas. Et s'il n'y avait pas eu la prescription, dans cette affaire, peut-être qu'on aurait eu des poursuites. Hein.
Sylvain Tronchet.
On est dans le cadre d'un procès en diffamation, hein, pas d'un procès pour agression sexuelle. On ne sait pas ce que sera le jugement de la 17e correctionnelle, mais d'ores et déjà, Denis Baupin a perdu. D'ores et déjà, ce qui s'est passé.
Et en plus, il n'était même pas là, il n'était pas présent.
En plus, l'effet était désastreux. Ouais. Enfin, il a voulu, précisément, oui, il a été pris à son propre... Je ne comprends toujours pas comment, d'ailleurs, à titre personnel, comment il a pu se lancer dans cette procédure. Qui a pu lui conseiller de relancer cette procédure comment il pouvait imaginer que ça puisse tourner à un moment à son avantage.
Georges Fenech, s'il y avait une mesure à prendre pour garantir la liberté d'informer, l'indépendance de la justice et les droits des individus en même temps, ce serait laquelle? Qui n'existe pas aujourd'hui.
Je vais reprendre cette formule qu'a rappelé d'ailleurs Edu Plenel récemment, qui est une formule de la Cour européenne des droits de l'homme. La liberté de la presse, le chien de garde de la démocratie. Ça, il faut vraiment l'avoir en tête. C'est une liberté fondamentale. Et aujourd'hui, j'ai bien peur qu'on assiste à un recul de cette liberté, comme d'ailleurs, c'est un autre sujet, la loi anti-casseurs, qui me paraît aussi être un recul des libertés de manifester. Mon mot, c'est qu'il faut garantir aux journalistes un véritable secret professionnel.
Merci beaucoup, Georges Fenech. On peut lire votre livre Presse Justice Liaison Dangereuse paru aux éditions de l'Archipel, qui est toujours d'actualité, paru il y a maintenant 10 ans. Merci beaucoup, Sylvain Tronchet. On retrouve toutes vos investigations à la cellule de Radio France et donc sur les antennes de Radio France.